À toi, Valérie, on
Nous sommes
t'attend.
que deux, je crois. Ouais.
Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. On avait proposé une réunion. Bon, c'est un lundi matin, donc voilà, je ne sais pas si les gens peuvent pas, ne veulent pas. Mais nous, on a des choses à dire, donc on va se débrouiller, d'accord?
Oui, très bien.
Alors, de quoi on parle aujourd'hui,
Alors
Valérie?
aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un échange, enfin c'est de faire un échange concernant les lectures qui nous inspirent, les lectures qui nous font grandir. Alors au départ, on avait plutôt tablé sur le fait de ne pas trop se fixer sur l'hypnose pour justement avoir une ouverture sur d'autres domaines, d'autres façons de voir aussi. Tout ce qui en fait peut nous faire grandir, à la fois dans nos pratiques. Et puis aussi sur le quotidien, quoi. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nourrit notre imaginaire? Qu'est-ce qui nourrit notre créativité? Qu'est-ce qui nous fait changer de vision des choses? Et puis bah voilà, qu'est-ce que la lecture peut nous apporter en tant que praticien et puis aussi en tant qu'individu?
D'accord. Grande question. On est dans une époque, aujourd'hui 2024, où les gens pensent qu'on ne lit plus, qu'on n'écrit plus. Et une vidéo que j'ai vue il y a quelque temps, Linguisticae, je ne sais pas si tu connais, c'est un gars qui parle de linguistique, qui dit qu'en fait, on n'a jamais autant lu et écrit qu'à notre époque. Parce que le texto, le commentaire Facebook, c'est aussi de la lecture et de l'écriture. Et que. La question du format, elle est peut-être secondaire par rapport à ce qu'on cherche dans l'écriture ou dans la lecture, qui est la transmission des idées, des visions du monde, l'activation de la sensibilité, esthétique, ou autre. Ouais. Donc élargir, autour de l'hypnose, c'est ça l'idée?
Ouais.
Alors par quoi on peut commencer? Est-ce que tu as un exemple? Je sais que tu as une pile de bouquins, tu as une
Oui.
barricade.
Ouais. Alors, en fait, j'ai fait un petit classement. J'ai
OK.
des thématiques. Donc, je suis partie sur une thématique qui serait plus psycho, fonctionnement du cerveau. J'en ai une autre qui est sur plus la philo.
OK.
Et puis, j'ai fait aussi un lien avec tout ce qui est santé mentale, mais qui serait plus dans quelque chose d'un peu distrayant et pas forcément technique. Voilà.
On peut dire bien-être éventuellement?
Alors, ce serait plutôt mal-être, là, pour le coup.
Ouais,
Parce qu'en fait,
d'accord.
j'ai
Va
pris
l'être,
une
ok.
thématique qui est les troubles du comportement alimentaire. C'est deux livres en fait qui m'ont beaucoup apporté et que j'avais envie de partager. Voilà. Et puis il y a aussi un comment ça s'appelle? Un roman graphique que je présenterai à la fin d'un auteur que j'adore et sur un thème vachement vachement intéressant. J'en dis pas plus.
D'accord, ok. On attend, on est en suspens.
Voilà.
Catégorie psycho, philo, santé mentale, mal-être,
Ouais.
trouble du comportement alimentaire, roman graphique.
Ouais.
Okay. Qu'est-ce que j'ai de mon côté? Bah, j'ai de l'hypnose un peu technique et puis ce qu'on pourrait appeler de la philo, entre la philo et la sociologie, quoi.
OK.
À peu près. Plus ou moins, c'est-à-dire plutôt la philo qui s'intéresse aux structures, etc.
OK.
Je te propose de commencer par le côté peut-être psycho,
OK.
par exemple, puisque c'est la
Allez.
première catégorie que tu as
D'accord.
nommée.
D'accord.
Allons-y.
OK.
Qu'as-tu donc dans ton panier?
Alors, dans mon panier, j'ai d'abord du très très lourd techniquement, qui est un de mes chouchous, qui est Antonio Damasio.
Antonio Damasio.
Voilà, donc lui,
L'ordre
c'est.
étrange des choses.
Oui. Je laisse le temps.
Ouais.
c'est un bouquin qui.
On a des commissions
Non.
sur les bouquins. Pas de
Hélas.
conflit d'intérêts. Hein. Antonio Damasio, on
Voilà.
t'écoute.
Donc lui, sa spécialité, c'est tout ce qui est neuro, donc neurosciences
D'accord.
cognitives, pour être précis. C'est important de le préciser.
Qu'est-ce que ça veut dire, neurosciences
Alors,
cognitives?
justement, c'est important de le préciser parce que à l'heure actuelle, le mot neurosciences est utilisé un peu à tort et à travers. C'est un peu comme quantique, énergie. Enfin, c'est des mots qui sont assez à la mode et qui perdent un peu de leur sens, qui sont un peu galvaudés. Donc, neurosciences cognitives, c'est vraiment étudier le fonctionnement du cerveau en termes de compétences. Et puis, ben là, pour le coup, avec Damasio, on est vraiment sur le fonctionnement neurologique, neuronal. Voilà.
De la vraie neurologie, quoi.
Oui, scientifique et même avec des mesures techniques, c'est-à-dire des mesures qui utilisent l'imagerie cérébrale, par exemple. Voilà. Et donc, le postulat de ce livre, c'est que les émotions préexistent à la pensée. Bon, j'essaie de simplifier parce que c'est hyper complexe, hein. C'est vraiment un bouquin très très complexe. Je n'ai même pas encore fini de le lire. J'en suis à peu près la moitié. Parce que ça reprend toute la genèse de la vie, en fait. Ça part de la cellule jusqu'à l'être humain. Et en fait, il démontre qu'il y a des émotions même chez un être unicellulaire, par exemple. Et que
D'accord.
l'émotion fait partie des adaptations au fil de l'évolution, quoi. Et que ben, nier l'émotion, en fait, c'est perdre une part de nos fonctions de survie. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute la partie sur l'intelligence intestinale. Parce que finalement,
L'intelligence intestinale.
ouais, alors il appelle pas ça comme ça,
OK.
hein. Il explique que les neurones qui sont au niveau des intestins sont les mêmes que ceux qu'on a au niveau du cerveau et que ben, des réactions qu'on peut avoir au niveau gastrique vont nous envoyer des messages émotionnels et on n'aura pas forcément l'interprétation intellectuelle pour bah, comprendre d'où vient cette émotion et que parfois c'est juste une réaction bah, par exemple à l'alimentation ou à des stimulus et des stimuli internes et externes et où il n'y a pas forcément de lien avec ce qu'on est en train de vivre précisément à ce moment-là. Enfin bref, voilà, c'est un bouquin ultra complexe mais très intéressant qui apporte un nouveau point de vue sur tout ce qui est émotionnel.
D'accord. Et l'idée que le ventre, c'est le premier cerveau, en fait, et pas le
Voilà.
deuxième, comme on le dit.
C'est
Tu
ça.
m'avais dit dans notre dernier échange que les premiers neurones qui se développent chez l'embryon sont les neurones de l'intestin.
Alors, pas forcément en premier, mais en tout cas, leur importance est beaucoup plus grande que ce qu'on a pensé. C'est vrai qu'on a tendance à faire cette dichotomie cerveau-corps, alors que, en fait, le cerveau, bah, c'est le corps aussi, quoi.
Oui, c'est un organe.
Exactement. Et que tout est relié, en fait.
Je ne sais pas comment on peut dissocier le corps, l'esprit, le corps, le cerveau. Enfin, on le fait, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé ou fait bouger dans ta pratique, cette lecture?
C'est surtout la manière dont je vais parler des émotions avec mes clients, en ramenant vraiment l'émotion à une compétence comme une autre. C'est-à-dire, bah, quand tu as soif, tu ne te poses pas la question pourquoi j'ai soif. Tu vas aller chercher de l'eau. Bah là, c'est pareil. En fait, l'émotion, c'est un message qu'on n'a pas à juger, en fait. C'est plutôt comprendre bah, quel besoin ça exprime. J'ai faim, je mange. J'ai peur, je me sauve, quoi. Tu vois l'idée?
Je crois qu'émotion, ça vient de mouvement à la base. Motion, tu vois. Enfin, c'est pas, enfin, en latin, c'est pas motion, mais je crois. On parle d'intelligence émotionnelle, alors.
Alors justement, ça me fait penser à un anti-livre. J'ai
Ouais.
oublié de le mettre dans ma pile. J'ai un livre que je déteste et qui est l'intelligence
D'accord.
émotionnelle. Je sais
Il
plus
est en
l'auteur.
deux
Ouais,
volets
ouais.
et c'est ouais, c'est imbitable le truc.
Ouais, et puis c'est bourré de neuromythes, d'essentialisme. Franchement,
Qu'est-ce que
c'est...
c'est l'essentialisme?
L'essentialisme, c'est quand tu pars du principe que les individus ont des comportements, des façons de faire dues à quelque chose de biologique. Par exemple, le plus gros truc essentialiste, c'est les genres, en fait, féminin, masculin, où on va prêter bah, par exemple, on va dire le féminin, c'est le care, le masculin, c'est la niaque, tu vois, des choses comme ça. Et on va se
On
baser
aurait
sur.
une essence, quoi.
Voilà, on va se dire, bah, c'est parce que c'est biologique. Ou, tu vois, tout ce qui est racisme, ça part de là aussi.
Les Noirs courent plus vite, ils ont le rythme dans
Voilà.
la peau. Les Asiatiques sont un peu proches de la nature, ils connaissent des remèdes et tout ça. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et en fait, dans
D'accord.
ce livre, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a tout un passage où il parle justement des personnes asiatiques qui vivent aux États-Unis, en expliquant qu'ils sont bien intégrés, blablabla. Enfin, des choses comme ça qui sont
Ah
extrêmement.
ouais.
Ouais.
Les Chinois sont discrets, travailleurs.
Voilà. Et puis, il y a
Ok.
cette idée aussi dans ce livre que la colère est quelque chose qu'il faut maîtriser. Enfin, il y a plein de choses comme ça, comme si l'intelligence émotionnelle, c'était une capacité à développer. Enfin, voilà, il y a plein de choses, moi, que je trouve.
Qui est de la suradaptation, du contrôle de l'émotion et de la désadaptation finalement.
Ça, on est vraiment dans l'idée de contrôler l'émotion. Et c'est exactement l'inverse d'un discours comme celui de Damasio, par exemple.
Ok.
Ouais. Donc, l'anti-livre à ne pas lire.
Anti-livre, ok, bon. On peut pas, on peut pas parler de tout ce qu'on n'aime pas non plus, mais la critique est intéressante. Ce sont des sujets sensibles parce que je pense qu'il y a un attachement viscéral aux lectures.
Oui.
Là, on parlait des viscères, l'intelligence des viscères.
Exact.
Je pense qu'on a un attachement irrationnel aux auteurs, aux artistes, etc., quoi. Donc on marche sur des œufs là, hein. On marche sur des mines. Quelque chose à ajouter sur Antonio Damasio pour
Non,
le moment?
je pense pas que ce soit son livre le plus simple, mais c'est le dernier qu'il a édité et son point de vue est vraiment original. Mais
D'accord.
voilà, sa bibliographie est intéressante dans son ensemble.
Ok. Ok. Je note, hein, je prends des notes en même temps. Les gens, prenez des notes, planquez vos cartes bleues.
Okay,
Amazon va grimper en bourse grâce à nous, là, je sens.
les trucs d'occasion.
Bon, tu mets la barre très haut, là. Tu
Oui,
mets
mais
la barre très haut.
je suis partie du
Ouais.
plus
Oui,
court.
c'est voilà, c'est ce que je voulais dire de ce qui est actuel pour toi en ce moment. C'est tu es en train de l'étudier. C'est un auteur qui t'intéresse en ce moment, donc c'est je pense c'est intéressant de dire on parle d'où on parle, c'est à l'instant T ce qui nous intéresse quoi.
C'est ça.
On l'a dit avant, on peut revenir sur une lecture des années après, ce sera plus du tout la même interprétation, etc. Mais il y a des choses qui peuvent être plus ou moins fixées dans le temps, comme les ouvrages scientifiques, donc c'est important.
Oui.
Je propose quelque chose à mon tour, alors,
Oui, j'allais
un
te
livre,
demander.
oui. Donc, bah, je vais essayer de rester sur le thème qui parle de neurologie, mais du point de vue des mythes, du point de vue du baratin, du point de vue du bullshit. Et le livre s'appelle Total Bullshit, justement,
Ah, ça m'intéresse.
de Sébastien Diéguez. Diéguez, Sébastien Diéguez, enfin voilà. Total bullshit. Je ne peux pas vous présenter la couverture parce que moi je lis sur Kindle.
OK.
Donc c'est très très pratique. Voilà. Et ce monsieur Diéguez, qui est neurologue depuis, je pense, une trentaine d'années maintenant, qui a eu envie de s'intéresser aux baratins pseudo-savants, notamment dans le domaine de la neurologie. Et le livre commence par une lecture commentée, en fait, un commentaire d'un précédent livre assez ancien, début du siècle dernier, je pense, On Bullshit, à propos du bullshit,
Okay.
qui est un ouvrage un peu philosophico-satirique qui parle de le bullshit, quoi, qui est intraduisible, en fait. Le bullshit, ça peut être le baratin pseudo-savant. Ça peut être si tu discutes avec une copine au café, ouais, t'as vu, machin, il m'a dit ça, c'est un connard, je vais lui pourrir sa vie, je sais pas, c'est du bullshit en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Et c'est lié à un contexte, etc. Et l'analyse est plus longue que l'essai lui-même. Donc, ça, c'est la première partie du bouquin. Je pense qu'il fait une généalogie un peu du bullshit en fait. Tu vois. Et ensuite, il s'attaque aux personnes de la zone médiane, c'est-à-dire ces personnes qui sont très présentes dans les médias, d'accord, dans les journaux, à la télévision, sur YouTube, qui parlent de choses et d'autres, qui profitent de l'effet de halo, qui fait que si tu es compétent en neurologie, on va t'interroger sur des sujets politiques, on va t'interroger sur l'immigration, tu vois, on va t'interroger sur l'acupuncture, etc., etc. Et on a toute une cohorte, un peu une phalange de gens qui sont des bullshiteux professionnels. Et ils s'intéressent à ça, puisque le monde universitaire, le monde scientifique est gangréné de la zone médiane de gens qui vivent sur le bullshit.
Okay.
Voilà. Je pense que ça peut compléter de manière très intéressante le livre que tu as proposé juste avant.
En effet, il y avait un article, je crois que c'est dans Cerveau et Psycho ou dans Epsilon, justement sur les pseudo-experts et des gens qui vont avoir cette étiquette d'expert et qui en fait sont experts dans un domaine qui n'a pas forcément à voir avec le sujet en question, mais on va porter crédit à leurs propos parce qu'ils ont cette étiquette-là en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Voir certains qui peuvent être des vendus purement et simplement. Par exemple, des médecins très médiatiques qui sévissent depuis longtemps sur les grandes chaînes pour donner des conseils nutritionnels et valider la processed food, etc., quoi.
Exact.
On les connaît, on les a vus, on les a repérés.
Mais c'est pas évident quand bah, tu vois, je pense aux jeunes, par exemple, qui commencent à écouter les médias et tout ça, et qui n'ont pas forcément l'esprit critique. Qui peuvent facilement prendre pour argent comptant tout ce qu'on va leur apporter, du moment que c'est dans un média un peu, comment dire, à qui on porte crédit, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, tous les médias portent crédit dans des bulles informationnelles, des bulles cognitives, des bulles idéologiques. Donc, n'importe quel pimpine, sorti derrière les poubelles peut devenir expert. Et expert dans le sens, l'expert qui maîtrise la littérature sur un sujet donné, là, on est plus sur des experts de l'opinion, en fait.
Ouais, t'as
Des
raison.
experts sans expérience, quoi, sans expertise et sans expérience. Même dans le monde de l'hypnose, il y en a quelques-uns.
Oui, je pense qu'il y en a partout, en effet.
Voilà pour ça, et ça peut nous emmener aussi sur le sujet de la métacognition, ce qu'on est en train de dire, tu vois,
Oui.
ce qu'on a parlé de pseudo-expertise.
Oui.
Peut-être pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la psycho, alors, sur la
Et
psycho,
bah
neuro et
justement,
ces choses-là?
bah je vais faire le lien.
Eh ben, c'est parfait. Tout est connecté.
justement sur la métacognition. Donc celui-là, il est assez connu, mais il est vraiment bien fait.
Votre cerveau vous joue des tours. C'est mal écrit, c'est normal?
Oui, c'est pour te montrer que tu peux le lire quand même avec des
Oui.
lettres à l'envers.
Le mot cerveau est écrit à l'envers et effectivement, il n'y a pas eu une seconde de flottement, quoi.
Donc c'est
Donc c'est de qui ça?
Albert Moukébert.
Albert Moukébert.
Voilà, qui est vraiment génial, je l'adore, qui est un neuroscientifique, psychologue clinicien également, et qui reçoit, qui est toujours en exercice, donc ça c'est intéressant, parce qu'il
D'accord,
n'est pas que
un
expert.
thérapeute.
Voilà, il est vraiment actif, et lui il travaille sur la déconstruction de tout ce qui est biais cognitif. Donc dans ce livre, en fait, il propose quelques exemples de biais cognitifs, pas tous parce qu'il en existe beaucoup. Et donc il explique que ça.
Plusieurs centaines, hein, il me semble, qui ont
Ouais, je
été identifiés. Il y a une arborescence pas possible.
ne saurais pas dire combien il y en a, mais en fait, voilà, il explique que c'est quelque chose de naturel, d'utile pour notre cerveau parce que ça nous permet l'économie de toujours tout remettre en question, mais que c'est intéressant d'en être conscient. Parce que ça nous permet de rester plus objectifs sur certaines opinions ou certaines réactions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et le livre est très bien fait parce qu'il est vraiment très accessible, c'est très grand public. Il donne plein de petits exemples de la vie de tous les jours. C'est pas un mec qui est donneur de leçons. Il est très bienveillant. Il aime pas les opinions tranchées. Il trouve intéressant d'avoir des nuances. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois très humaniste et en même temps très carré, très scientifique dans ce qu'il propose. Donc voilà, un super petit bouquin qui se lit facilement. Ça peut être sympa à lire sur la plage.
Les biais cognitifs, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse de par nos pratiques et qui nous concerne de par l'analyse de nos pratiques. Et
Oui.
même d'être conscient qu'il existe des biais ne nous en protège pas.
Non.
Parce que c'est encore un autre biais Ah, ça doit être un métabiais, enfin, ça doit exister, mais les biais de confirmation, c'est de ça qu'on
Exactement.
parle. Et il y a toute une littérature, justement, un peu donneuse de leçons, notamment, enfin, je l'ai quelque part, la psychologie de la connerie, qui énumère les biais de confirmation, les biais de récence, ces choses-là, mais d'une manière, bon, les gens sont cons, en fait, quoi. Mais il s'agit pas d'intelligence, il s'agit pas du tout d'intelligence, de QI, il s'agit d'automatisme en fait.
Ouais. C'est vrai qu'il y a une notion de jugement dans ce que tu dis là,
Ouais.
alors que finalement, bah, c'est notre fonctionnement. Donc
Bien
c'est bien
sûr.
d'en être conscient sans s'en vouloir pour ça, en fait.
On fonctionne avec des stéréotypes,
Voilà.
des
Le
comportements plus ou
stéréotype, c'est
moins.
l'économie de place.
Ouais, c'est ça, c'est l'économie de l'attention, l'économie de l'énergie. Le gain de temps, les heuristiques, les raccourcis, quoi, bien sûr. Si j'ai appris que de fréquenter telle catégorie de personnes, c'était mauvais pour ma survie, je vais me comporter d'une certaine manière sans en avoir conscience, voire d'essayer de rationaliser pourquoi, voilà, comme des tas de gens le font dans les médias, de rationaliser des choses qui sont purement des affects assez primitifs d'ailleurs, quoi.
Oui.
Dans le genre, il y a Gérald Bronner qui a parlé de la pensée extrême, la démocratie des crédules, où il aborde aussi les phénomènes de bulles informationnelles, de radicalisation, de choses comme ça.
Okay.
Le podcast Méta de choc, je pense qu'il est ultra, ultra connu.
Moi, j'adore, j'écoute tout, 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 tout. C'est vraiment très bien fait, et ça apporte un regard. Ouais, du recul, ça apporte du recul.
Ouais, après, la difficulté étant toujours d'interroger ses propres biais.
Ouais.
Et ça, je pense qu'on peut le faire que dans la confrontation avec des opinions divergentes, la contradiction, ces choses-là. Je pense que une petite incise de développement personnel, l'art ultime de s'en foutre, de Mason, je sais plus comment il s'appelait, Manson peut-être, Mark Manson. Bon, l'art subtil de s'en foutre,
On a parlé, mais
si quand on t'explique quelque chose, ça te met en colère, certainement il y a une vérité que tu n'as pas envie d'entendre. Peut-être. Donc interroger ce qui nous met en colère peut être extrêmement instructif.
En effet.
Métacognition, on a autre chose ou pas? Dans ton panier.
Non, dans mon panier, j'ai
T'as
pas
tout
ça.
bon dans ton panier. Du fromage. Eh bien, c'est ton tour, je crois.
Ben non, je viens de parler
Ah
de
non, t'as parlé de
ça.
Moukébert. Exact, exact, exact. Ben moi, j'ai les pratiques cliniques en addictologie.
Ah,
Qui
super.
est. Tu vois, que 2 cm d'épaisseur. Donc c'est collectif, hein. C'est un ouvrage médical, donc c'est coordonné. Alors il y a des illustrations, hein.
OK.
Il y a des bon bref, il y a des schémas. En tout cas, c'est une excellente synthèse de ce qui se pratique aujourd'hui en addictologie clinique. Donc c'est important, voilà, parce que les addictions qui sont une thématique spécifique dans ce qu'on fait. En tout cas, s'intéresser à la méthode scientifique, au travail pluridisciplinaire, d'avoir une mise à jour, voilà, sur tout ce qui est entretien motivationnel, etc. Sans dire que de se renseigner et de s'informer sur ces pratiques ne nous transmet pas la pratique et nous, ne nous rend pas capable de l'exercer, mais de savoir dans quel monde on évolue, c'est quoi le parcours des addicts, parce que souvent on va en recevoir en post-psychiatrie, voire traumatisé par la psychiatrie. Voilà, je pense que c'est indispensable aujourd'hui de connaître un peu de l'intérieur le fonctionnement des pratiques cliniques. Voilà.
Ok. Donc c'est vraiment des exemples de
Voilà.
thérapie, des choses comme ça. Ça fait un peu une synthèse de tout ce qui se fait actuellement.
Alors, tu as les classifications, je te feuillette, hein, rapidement,
Oui,
c'est structuré, hein. les substances, classifications, les critères diagnostiques du DSM-5, par exemple, la neurobiologie des addictions, bon, c'est les synthèses, hein. Vulnérabilité aux addictions, psychopathologie des conduites addictives, principes généraux des prises en charge. Bon, alors après, c'est les tableaux, etc. Donc, c'est plus technique, les posologies, les comorbidités, les modèles, modèles transthéoriques, stades motivationnels, post-sevrage, les vignettes, spécificité de la pratique infirmière, soins infirmiers en addictologie, addiction et troubles psychotiques, le toucher dans la relation d'aide, prise en charge de la famille, etc., l'impact de la prise en charge, conception d'un programme, équipe de liaison et soins en psychiatrie. Donc c'est vraiment du clinique
Hyper
pur et
complet,
dur. Très synthétique, mais après, bon, par la bibliographie, etc., ça permet de s'y retrouver. Parce que c'est un labyrinthe, la addictologie. C'est immense, tu vois. C'est plus large que le protocole pour les addictions du centre de formation Hypnose 2000. Voilà, quoi.
Oui, et puis selon
Donc,
l'addiction,
voilà.
c'est pas du tout les mêmes choses qui se jouent. Ce soit par exemple, tu prends l'alcoolisme ou l'addiction au sexe, ou ça va pas du tout être les mêmes enjeux ni les mêmes fonctionnements. Donc c'est très vaste comme sujet.
C'est extrêmement vaste et il y a des spécificités inhérentes aux substances, aux activités. Il y a un aspect culturel extrêmement, voire religieux, hein.
Ouais, c'est
Donc,
vrai.
l'alcool, le haschich sont des produits spirituels, mystiques, religieux aussi, quoi.
Ouais.
Mais c'est un domaine qui est passionnant, en tout cas.
Ouais.
Et voilà.
Okay.
Voilà pour ça. Mais je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais un peu en technique psycho, etc.
D'accord.
J'en lis pas tant que ça. Enfin, par la métacognition qui est intéressante et la psychologie sociale, où il n'y a pas tellement de livres accessibles pour un peu un public de thérapeute pratique, quoi. Il y a Cialdini, Influence et manipulation, mais c'est descriptif, presque anachronique aujourd'hui.
Ouais. Ok. À moi?
Oui, mets-tu donc dans ton panier.
alors du coup, je me rends compte que finalement, ça touche quand même peut-être quand même au biais cognitif. Donc ce petit bijou-là,
Le cerveau pense-t-il au masculin?
qui a été fait par trois. Alors je l'ai lu il y a un petit moment, donc je me souviens plus. Je crois qu'ils sont psychologues tous les trois. Et en fait, ça montre ben, que, par exemple, le langage avec le masculin neutre, c'est un exemple, il n'y a pas que ça, mais ben, ça a quand même un impact sur notre façon de penser. Le livre est très bien fait parce qu'il y a plein d'exemples du quotidien et il y a aussi des expériences que tu peux faire, toi, pour les vérifier, en fait. Et donc, bah, ça peut aider à se détacher du principe bah, que finalement, l'écriture inclusive, c'est pas très important. Bah, en fait, si, c'est important. Parce que ça a vraiment un impact sur notre manière de créer des concepts à l'intérieur de notre cerveau, quoi. Voilà.
Et là, on parle de la langue française qui est spécifique, mais on pourrait développer ça sur. Attends, je vais mettre un peu de lumière électrique parce que là, c'est l'apocalypse, Macon. Par exemple, tu vois, en arabe, il y a une façon. Le masculin et le féminin sont extrêmement, extrêmement présents, tu vois. Si
OK.
tu vas dire, si tu veux te présenter, je m'appelle Valérie, je sais plus, c'est, j'avais appris, mais ça remonte à loin. Tu vas dire Enti Valérie ou Ena, je sais plus, ou c'est je ou tu,
OK.
et tu as une terminaison différente. Si tu te présentes, je suis Valérie, enfin, il n'y a même pas le verbe être, mais je Valérie ou je
OK.
Emmanuel, la conjugaison, enfin, la non-conjugaison va être différente, déjà. Donc, enfin, pour dire qu'on est effectivement, on est formaté par la langue sur le féminin et le masculin. Et je crois que c'est dans le thaïlandais que les femmes se présente d'une façon qui veut dire en gros, je suis une petite souris et je m'appelle Valérie. Un truc comme ça, tu vois. Donc, structurellement, dans la langue, il y a des stéréotypes, des suggestions qui sont véhiculées par la linguistique. Et ça pourra nous emmener sur le terrain de la linguistique par la suite.
En japonais, c'est très flagrant aussi, c'est-à-dire que même la manière de s'exprimer pour une femme et pour un homme n'est pas la même. Donc il y a des mots, par exemple, qui ne sont pas autorisés. Alors, ce n'est pas dans ce bouquin, hein, c'est, j'avais
Non,
lu
mais
ça
c'est
dans un autre article.
pour
Par
illustrer,
exemple,
quoi.
par rapport à la nourriture, un homme, il se goinfre, il s'empiffre. Mais c'est des mots que les femmes n'utiliseront pas. Elles vont plutôt dire je picore, je grignote. Tu vois, des choses comme ça.
D'accord.
Et le ton, je sais pas si t'as déjà remarqué ça, c'est assez flagrant dans les doublages de manga. Le langage féminin est très feutré, c'est toujours des petites voix, c'est fluide, alors que les hommes, c'est, tu vois, c'est très puissant comme ça. Et c'est assez, vraiment très, très prononcé dans la culture japonaise.
Effectivement, dans le
Voilà.
Japon traditionnel, les hommes devaient parler à peu près le plus fort possible, en fait. La culture un peu du ventre, tu sais, beaucoup de gens qui portaient un bandage sur le ventre pour développer le hara, et il fallait parler très, 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 très fort. Et quand tu vois le manga qui illustre les fantasmes du japonais, bah, effectivement, la femme, c'est... Bon, tu vois jusqu'où ça peut aller. C'est l'écolière, en général, c'est ce genre de stéréotype, ouais. Et qu'est-ce qu'on y apprend alors dans le cerveau pense-t-il au masculin?
Ben, ce que je trouve intéressant, c'est comme je te disais, cet aspect pouvoir faire des expériences. Je te donne un exemple qui me vient
Ouais.
comme ça. Quand il a un des trois auteurs, quand il a eu son petit bébé, s'est amusé à le promener dans la rue. Et quand on lui demandait c'est une fille ou un garçon, eh ben il changeait. Des fois il disait c'est une fille, et des fois il disait c'est un garçon. Et ben systématiquement, quand il disait c'est une fille, les réflexions des gens étaient oh bah qu'est-ce qu'elle est mignonne, oh bah elle a l'air toute gentille, oh voilà ce genre de réflexion. Et quand il présentait son bébé comme un garçon, tout de suite les gens disaient oh bah il est costaud hein, oh il a l'air éveillé, et ça n'appelle pas du tout le même jugement alors que c'était le même bébé quoi. Après, il y a un autre exemple aussi qui m'a marqué, c'est sur la manière dont on nomme les duos. Alors, par exemple, comment tu appelles les premiers êtres humains qu'on trouve dans la Bible?
Alors au début, c'est les fils de Dieu, et ensuite c'est les fils des hommes.
Ok, alors le couple mythique, c'est qui?
Adam et Ève, ou Ève et
Voilà.
Adam. Adam et Ève,
Adam
ouais. Bah,
et
de toute façon,
Ève.
Adam est arrivé en premier dans le mythe, et Ève, c'est un produit dérivé, si tu veux, quoi. C'est
Voilà.
un truc un peu... Voilà. C'est de la récup, quoi. C'est de la récup.
Autre exemple, les amoureux shakespeariens morts à 15
Ouais,
ans.
Roméo et Juliette.
Voilà, en fait, tu
C'est
vois, c'est
ça, ouais.
toujours. T'as plein, plein d'exemples comme ça. Et une expérience que tu
Bonnie and
connais.
Clyde.
Ah Bon exemple.
Thelma et Louise.
Ouais, c'est deux femmes.
Ouais, ça ne marche pas. Ça marche pas.
Bon, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est
Ouais,
ça,
ok.
c'est les expériences à faire. Et puis, bah, ça
Là, on
déconstruit.
est sur du biais cognitif super su super primal, en fait, quoi.
Ouais. Ben, en fait, c'est les choses qui sont ancrées dans le fonctionnement de la société et auxquelles on fait plus attention, en fait.
Bah, dans le langage, c'est des allants de soi culturels, quoi.
C'est ça.
Le cerveau pense-t-il au masculin? C'est de qui?
Alors, c'est super dur de te donner les noms. Donc,
D'accord, bon, on va
Pascal
se débrouiller avec
Lucas.
le titre.
Ouais. Il y a un épisode d'un podcast sur Binge Audio où ils sont venus présenter leur livre. Et du coup, ça peut être intéressant parce qu'ils donnent aussi d'autres exemples qui ne sont pas dans le livre. Je ne sais plus si c'est dans Les couilles sur la table ou dans On peut plus rien dire. Enfin, c'est dans un de ces deux podcasts.
D'accord. On met la barre très haut, hein. Où est-ce qu'on va après ça? Où est-ce qu'on va? Je trouve que tout ce qui se rapporte à l'étude ou l'interprétation du langage, c'est intéressant. Mais en ce moment, je lis Roland Barthes. Donc, c'est les années 40-50, je crois, à peu près. Et ça s'appelle Système de la mode, ce que je dis. Qui est une étude linguistique des discours de mode, des journaux de mode de l'époque. Par exemple, La ganse fait l'élégance, donc la petite cordelette, voilà. Et de quelle manière, en fait, avec donc vraiment une étude linguistique, voilà. Donc c'est du lourd, quoi. Enfin,
Ouais.
vraiment, je galère à lire ça, mais c'est intéressant. Et de quelle manière on te fait un peu des divisions par zéro à partir de rien pour te vendre un sens, en fait. Et c'est
Ouais.
ça qui est intéressant. Et Roland Barthes, c'est un fondateur d'une discipline qui n'existe pas vraiment, tu vois, qui est la sémiologie, enfin, ou peut-être qui existe, mais pas de manière, enfin, en tout cas de manière assez confidentielle. Et la sémiologie, c'est l'étude des liens entre les signifiants et les signifiés, qu'il appelle les signes. Et par exemple, qu'il a abordé de manière assez poétique dans un livre qui s'appelle Mythologie au pluriel. Donc Roland Barthes, Barthes, par exemple, il parle du catch. Qu'est-ce que ça représente, la lutte entre le bien et le mal? Mais c'est très poétique. C'est pas un regard cynique sur les choses. Il parle des photos d'acteurs et d'actrices à la ville. Qu'est-ce que ça représente? Le steak frites, qu'est-ce que ça représente? Et il y a toute une comme ça, toute une un peu une désorientation de la pensée sur l'étude des signes, quoi. Et
Ok.
j'aurai d'autres ouvrages à proposer sur le sujet justement de l'étude du langage subliminal, de la signification dans le sens d'envoyer des signes, d'envoyer des signaux.
Ok, bah, tu veux pas faire le lien tout de suite? Ouais.
Le lien tout de suite, ça nous emmène dans des choses très éloignées de l'hypnose, mais pas tant que ça. Et de toute façon, on s'intéresse à l'humain, à la perception des humains. Nous avons Jean Baudrillard, n'est-ce pas, qui a été dans les courants psychanalytiques à son époque, plutôt début 80, fin 70, qui est revenu un peu dessus dans les années 2000 en disant que c'était dans l'air du temps, mais que, bon, voilà.
Okay.
Par exemple, le système des objets, à quoi ça correspond? Alors, il y a les objets. Par exemple, c'est les murs et la lumière dans les intérieurs. Les objets, ça peut être l'ordre de rangement. Ça peut être le matériau, le verre, qu'est-ce que ça signifie? RFI,
Okay.
la voiture, le briquet, qu'est-ce que ça veut dire? La forme conditionnelle, la motivation, les séries, etc. Donc, c'est un peu verbeux, tu vois. C'est un peu entre de la philosophie, de la sociologie. On ne sait pas trop ce que c'est. Un peu comme Roland Barthes, où ça paraît extrêmement intuitif, mais c'est un peu un trou noir, ça t'emmène dans des zones obscures de la pensée.
Du coup, c'est sur
Et
les symboliques des objets, tu pourrais dire ça
les
comme ça?
symboliques,
Ok.
ouais, c'est vraiment sur la symbolique. Enfin, en tout cas, eux, ils
D'accord.
appellent ça le signe, quoi.
Ouais.
Mais c'est à peu près ça, ouais. Et pour les signes, nous avons La Société du spectacle de Guy Debord, qui est. Je prends une citation au hasard, on pourrait tout citer dans ce bouquin,
Ok.
vraiment au hasard. Le spectacle est la reconstitution matérielle de l'illusion religieuse. La technique spectaculaire n'a pas dissipé les nuages religieux où les hommes avaient placé leur propre pouvoir détaché d'eux. Il les a seulement reliés à une base terrestre. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le meilleur extrait, ça paraissait avoir un sens au moment où je l'ai surligné. Le spectacle, c'est la société de consommation, en
OK.
fait. C'est ça l'idée. Et pour finir là-dessus, pour le moment, la société de consommation de Jean Baudrillard, en gros, c'est l'analyse un peu psychanalytique, philosophique, sémiologique. Un peu de ce qu'on a appelé la matrice dans les années 2000, tu vois.
OK.
L'isolation des individus dans la consommation, etc. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de la lecture très, très abstraite. Sur une base concrète, je trouve ça intéressant. Voilà. Mais
Ok.
l'idée de signe, tu vois, qu'on s'habille d'une certaine façon, on envoie un message, etc., etc.
Ouais, c'est intéressant.
Après, ça dépasse le cadre de nos pratiques, mais comme je pense qu'on a une inclination naturelle, par nous et puis d'autres gens qui pratiquent, de s'interroger sur le sens de ce qu'on pratique, quoi,
Oui.
des implications, à quoi vers quoi on amène les gens, en fait, sur quoi, dans quel monde on vit, quoi.
Oui, puis tu peux pas isoler la personne que tu reçois de son contexte. Et
Non.
la société de consommation, par exemple, ça fait partie du contexte. Tout ce qui est symbolique, signe, signifiant, ça en fait partie aussi. Donc c'est intéressant, ouais.
Je pense que c'est intéressant d'avoir un peu une idée de ce qui a été, en tout cas de ce qui a été pensé, développé sur ce sujet-là. De toute façon, la lecture, c'est aussi l'intérêt, c'est de pas penser par soi-même tout ce qui a été pensé avant, en fait. De ne pas réinventer la roue à chaque fois. C'est quel intérêt? Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qui a été déjà fait?
Ouais, c'est l'idée d'intelligence collective, un peu de
Ouais. Et
de
tu sais,
penser.
tu as vu dans le groupe Hypnose, tu as une personne qui a posé la question, en gros, des implications sociales de ce qu'on propose. Et en fait, elle a écrit dans les sous-commentaires qu'elle a une demande de quelqu'un pour développer une entreprise, mais un truc vraiment pas éthique, en fait, quoi. Tu vois, un peu mondialiste, basé sur la pub. Et en fait, qu'est-ce qu'on propose dans nos réponses à des besoins individuels, quoi. Et c'est un débat forcément qui n'existe pas trop parce que structurellement, les pratiques dont on fait partie sont axées sur l'individuel et sur une certaine idéologie libérale, avec les guillemets, où tout est basé sur l'individuel, indépendamment des rapports de force, de production, de domination, etc. Ouais.
Ben, ça me fait penser à. C'était une table ronde sur les ateliers, justement, les ateliers de groupe. Et c'est Adrien Moulard qui disait, lui, il fait beaucoup
Adrien,
d'entreprises, ouais, beaucoup d'ateliers, justement, dans les entreprises. Et lui, il disait qu'il avait ce petit souci, entre guillemets, éthique. C'est-à-dire, parfois, ben, lui, son objectif, c'est quand même le bien-être des personnes qu'il a en face de lui. Mais selon de qui émane la demande, si c'est une demande par exemple des dirigeants et que l'objectif c'est un peu de noyer le poisson, de faire en sorte, bah, vous avez vu les gars, on a pris soin de vous, mais bon, on vous augmente pas. Donc il y a toujours cette espèce de posture, on a un peu les fesses entre deux chaises là, à qui on vient, enfin qui est-ce qu'on sert quand on fait ça, quand on propose ce genre d'atelier quoi. Donc
Est-ce qu'on fait autre chose que ramener les gens dans le système, hein, en thérapie? Enfin, est-ce qu'on fait autre chose que rendre les gens productifs, au bout du bout, quoi?
Bah, je pense que c'est selon la posture que tu as et justement les lectures, ça peut te permettre de pas être que là-dedans, quoi.
Oh bah ouais, parce que enfin, je pense que pour toi non plus, puis pour la majorité des hypnos qu'on connaît, c'est pas nos valeurs, le productivisme. Et tiens, je place une citation parce que c'est un auteur que je voudrais évoquer après. Mais non, c'est ton tour d'ailleurs.
Bah, en fait, c'est un livre que j'ai pas dans ma pile, mais qui rebondit sur ce qu'on vient de dire. C'est le livre de Psychoquack. Je sais plus quel est son nom.
Psychoquack.
Ouais, je sais plus quel est son nom. C'est un super.
Non, mais c'est le nom de sa chaîne YouTube,
Voilà,
donc on
c'est
le trouve
ça.
comme ça.
Et le livre s'appelle Ce n'est pas toi le problème. Et
Ce
il
n'est pas toi le
replace,
problème.
voilà, il replace vraiment la psychologie dans le contexte capitaliste. Et en fait, il a beaucoup d'humour. C'est quelqu'un d'assez trash. Et à la fin de chaque chapitre, il met une petite BD. Où il dit, bon, bah, la solution, c'est, faut tout cramer le capitalisme. Mais c'est bien fait parce que justement, il remet cette idée de pourquoi on accompagne les gens, c'est quoi le rôle du psychologue, est-ce que c'est de faire en sorte que la personne se sente bien ou c'est qu'elle rentre dans le moule, d'où vient sa souffrance, est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est la société qui la maltraite? Donc voilà, j'avais pas prévu dans ma pile, mais du coup, il est judicieux par rapport à ce qu'on vient de dire avant.
Ouais, je pense, ouais. Et t'as des choses qui ont été développées par des gens comme Barbara Stiegler, je sais pas si ça te parle.
Non.
Enfin, ce que je suis en train de lire son livre aussi en ce moment, parallèlement à Roland Barthes. Tu vois, t'as deux niveaux de complexité et ça te permet de se reposer, de passer de l'un à l'autre. Elle écrit tout, elle fait une généalogie du libéralisme.
OK.
En fait, depuis des gens comme Lippmann, enfin, au début 19e, quoi, comment la pensée libérale, et en fait, ça a vraiment été une philosophie développée, comme quoi la multitude, les peuples, en fait, seraient une masse informe incapable de prendre la moindre décision, de s'organiser. Enfin, en tout cas, dans la great society, tu vois, la société mondialisée, il faut qu'il y ait que des changements progressifs, donc il faut que le jeu des élections ne mène à rien, etc., etc. Et tu as une armée de psychologues à l'époque qui ont travaillé sur la propagande, sur le soft power, sur ces choses-là, pour que les gens soient et en fait, enfin, c'est l'analyse qu'elle suit, c'est que par l'inflation de la conscience individuelle, on abolit la conscience de classe. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que la psychologie, la médecine est structurellement capitaliste, en fait.
Ok.
Donc c'est intéressant de se positionner là, parce que nous, on
Ouais.
ne fait pas de politique, mais c'est intéressant de voir d'où ça vient, où ça va. Et tu as une dame qui a publié sur le groupe Hypnose, elle voulait lancer ce débat-là. Et tu vois que vraiment les gens, non, bah non, parce que pour vivre bien en société, ça passe par le bien-être personnel.
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire vivre bien en société, quoi?
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut se suradapter à des rapports de domination, mettre des lunettes roses, tu vois, le monde du travail, c'est le bon exemple, hein. Animer des ateliers en entreprise, c'est le patron qui te paye, c'est les employés qui souffrent. Est-ce que tu es là pour autre chose que les rendre plus performants, plus productifs? Ah, ça pose des questions éthiques.
Tu vois, ça me fait penser aussi au DSM. Donc là, on en est au 5R, je crois. Le DSM, en fait, il y a une grosse polémique parce que est-ce que c'est une classification des pathologies? Ou est-ce que c'est, ben on choisit ce qui est pathologique. Tu vois, je prends l'exemple, par exemple, de tout ce qui est transgenre. Ben, tu regardes au départ, l'homosexualité, c'était considéré comme maladie mentale. Ensuite, il y a eu tout ce qui était dysphorie de genre. Alors maintenant, ça s'appelle dysphorie de genre, mais il y a un moment où on appelait ça, je ne sais plus, enfin, j'ai plus toutes les étapes, mais selon le contexte culturel, selon les époques, bah, il y a des choses qui sont considérées comme maladies mentales et on va faire des thérapies de conversion, des choses comme ça. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est médical et dans quelle mesure c'est scientifique, ou bien est-ce que c'est purement bah, un outil, en fait, un outil pour servir le capitalisme, pour faire rentrer les gens dans un moule, pour qu'ils soient performants, etc. Grande question.
Grande question, hein. Je pense qu'il y a un opportunisme industriel sur toutes ces questions-là. Donc après, tu as aussi un opportunisme réactionnaire. Bah, tu
Oui.
peux aller voir, je sais pas, si tu t'intéresses à la question transgenre, tu vois qu'il y a que des discours extrêmes, en fait.
Ouais.
N'y a pas vraiment de discours neutre, je pense, par manque de recul, sûrement.
Oui, puis c'est des choses qui touchent beaucoup à l'émotionnel, en fait.
Ah bah, quand tu vois les discours réactionnaires sur le sujet, tu vois que c'est vraiment de la rationalisation d'affect. Voilà, parce que bon, je pense que l'immense majorité des gens n'est pas concernée directement par cette question-là. Donc pourquoi ça énerve tellement les gens, quoi?
Eh ben, je vais te changer de point de vue avec cet excellent ouvrage.
Ceci est un livre sur le genre.
Alors,
D'accord.
ceci n'est pas un livre sur le genre.
Ah, ceci n'est pas un livre sur le genre. D'accord. Alors, c'est quoi?
Alors, c'est Morgan Noam, qui est un super
Morgan Noam, d'accord.
un psychopraticien, psychothérapeute. Je ne sais pas ce qu'il a exactement comme formation, mais c'est quelqu'un d'extrêmement pointu, extrêmement précis. Et là, le bouquin parle du genre, de la question du genre. Et c'est extrêmement complet. C'est-à-dire que ça part de quand est-ce qu'on a inventé ce concept? Pourquoi? Comment? Quel impact ça a sur notre manière de structurer la société, de structurer les sociétés? Et puis ça détruit beaucoup d'idées reçues, en fait. Et je pense que c'est quand même un livre qui est assez d'utilité publique parce que ben, extrêmement documenté, il y a beaucoup, beaucoup de références, que ce soit en termes de statistiques, en termes culturels. Ça nous sort un peu de notre vision européano-centrée et capitaliste. Ça donne d'autres points de vue. Et voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus. Mais c'est vraiment c'est presque une bible tellement il y a de choses dedans. Et il avait tellement de choses à mettre dedans que d'ailleurs il y a un QR code à la fin qui te permet d'aller rechercher plein plein d'autres ressources, que ce soit des
D'accord.
bouquins, des vidéos. Donc voilà, ça peut être une bonne entrée sur cette thématique quand on ne connaît pas du tout ce que c'est que la question de genre. Et puis tout ce que ça, comme tu disais, tout ce que ça génère en termes de débat, de
Ouais,
réflexion.
bah, bah après, je parle, enfin, tu vois, témoignage un peu personnel, hein, une fois que tu as passé les affects réactionnaires, sans dire que tu les as forcément compris, mais une fois que tu es un peu immunisé, par rapport à la réaction, par effet d'exposition, en fait, hein, du
Ah
fait d'en
oui.
entendre parler, les gens normaux, on va dire, normalement, normalement constitués, c'est des questions, c'est nouveau, c'est dangereux, ça fait chier, j'en veux pas, tu vois,
Ouais.
moi le premier, hein, de manière souvent assez violente. Et puis, au bout d'un moment, tu dis, bon, bah, pff, voilà, ça existe, et puis on passe à autre chose, tu vois.
Ouais, puis en fait, c'est
Mais tu as des
nouveau,
gens
c'est
qui
dangereux,
s'accrochent à la réaction,
Ouais, c'est ça,
ouais.
c'est ça.
Alors qu'on est dans une époque, surtout quand on s'affiche, on se déclare thérapeute, accompagnante, accompagnant, hypnothérapeute, de ne pas s'intéresser à ces questions-là aujourd'hui, ça me paraît quand même difficile, quoi. Enfin, je pense qu'on a intérêt à lire au moins voilà, deux, trois choses sérieuses qui ne soient pas les articles de Valeurs Actuelles ou les livres de Mathieu Bock-Côté. Enfin, voilà, quoi, y a...
Je suis d'accord avec toi, en tant que thérapeute, c'est vraiment une responsabilité. C'est.
Ouais. Et personne ne demande à personne de changer de genre, de sexe. Enfin, voilà,
Exactement.
c'est pas grave.
Non,
C'est pas grave.
ça peut être, voilà, je vous le recommande, une très très bonne entrée si on ne
Ceci n'est
connaît pas.
pas un livre sur le genre et c'est de qui?
Donc, c'est Morgane Noam Lucas.
Morgan, Noam Lucas.
Voilà,
Très bien, très bien.
qui lui-même est un homme transgenre, c'est intéressant de le souligner. Et c'est vraiment fait avec beaucoup de bienveillance, quoi. C'est pas violent, c'est nuancé et en même temps c'est très complet. Le livre est assez rigolo, c'est bien écrit parce qu'en fait il y a trois points de vue. Donc il y a le point de vue scientifique dans lequel il fait un exposé très clair. Et puis dedans il a fait le petit troll qui de temps en
Ah oui,
temps
d'accord.
voilà, c'est les petites répliques qu'on peut trouver, bah, comme tu disais, des réacs. C'est les questions qui reviennent souvent. Et en fait, il va déconstruire ça. Et puis la troisième voie, bah, c'est lui-même. De temps en temps, il fait une intervention aussi, bah, pour apporter une petite touche d'humour ou interpeller sur une thématique en particulier.
Une
Voilà.
approche contemporaine de l'écriture, quoi.
Ouais, c'est un très beau livre. Et ça se lit tout seul. Moi, je l'ai dévoré en 24 heures là.
Ouais, c'est pas du descriptif pur, froid, chiant, quoi.
Non, pas du tout.
Alors, c'est bien, tu vois, d'avoir pioché plein de bouquins qu'ont rien à voir parce que
Ouais.
ça permet ça à voir en fait. Tiens, je pourrais proposer L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, que les gens connaissent en principe au moins de nom, qui permet un peu de se familiariser avec les sophismes.
Ok.
L'appel à la nature, par exemple, l'appel au bon sens, l'appel à la tradition, l'appel à l'ancienneté, l'appel, etc., qui sont tellement présentes, bah, notamment sur les questions de genre, ou sur, hein, le bon sens, la nature, la tradition,
Ouais.
pour éviter de réfléchir, en fait, quoi.
Ouais.
Parce que la vérité dérange. Tiens, on a parlé de la Bible, hein, tout à l'heure. L'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, avec beaucoup de savoir, on obtient beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Réfléchir, apprendre fait mal, ça bouscule. Mythe et mythologie politique de Raoul Girardet. Donc ça, c'est... je sais pas de quand ça date. Alors les mythologies politiques, bah, ça va être par exemple l'âge d'or, l'homme providentiel, et ces choses-là, quoi. L'unité, tu vois, l'unité nationale, l'unité machin, voilà, le sauveur, voilà, Monsieur Zemmour, sauvez-nous, tu vois, la conspiration, voilà les grands thèmes des mythologies politiques qui sont extrêmement intéressantes à lister, en tout cas à identifier, parce que on a tous nos biais, nos croyances qui sont formées là-dessus, en fait, quoi. Les croyances sont sociales avant d'être individuelles, en fait.
L'auteur, c'est quoi son... Il est quoi? Il est historien? Il est...
Agrégé d'histoire et docteur ès lettres, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'ENA.
Ok.
Voilà. Donc, la première édition est de 1986.
Ok.
Voilà, donc c'est ce que je te disais entre la sociologie, la philosophie, les essais un peu, je ne sais pas comment appeler ça, philosophie, je me méfie un peu de ce mot-là parce que, tu vois, qui est philosophe, moi je vois un hypno qui parle de sa philosophie, tu vois, des fois, bon, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas.
Bah
En
là,
tout
du
cas,
coup, c'est une approche plutôt historique, finalement.
oui, plutôt historique, mais la finalité, c'est d'aborder les systèmes de croyances.
Exact.
En fait, c'est ça, de croyances
Oui.
collectives, donc un peu archétypales,
Ouais.
voilà, ces choses-là, quoi.
Ok. Ouais,
J'essaie de faire des liens avec ce qui nous intéresse. Hein.
non, c'est intéressant. Et effectivement, ah, attends, je vais brancher mon ordi. Il n'a plus de batterie.
Ah, la batterie.
Voilà.
On en a encore sous le coude, hein. C'est bien, ça pourrait être un épisode, ça pourrait durer la journée entière.
Si tu veux, je peux te montrer trois trucs de philo. Je parie que tu as les mêmes.
Allons-y. Je ne sais pas.
Tadam.
Alors la rencontre, oui.
Le
Les vertus de
pas
l'échec, non. Non, ça je ne connais pas.
C'est celui que j'ai
Et.
préféré. Alors, donc ça, c'est les deux Charles Pépin. Donc, les vertus de l'échec, c'est son premier. Après, il a fait sur, je sais plus, c'est d'autres thématiques. Et le dernier, donc, c'est la rencontre.
Passionnant, passionnant la
Ouais,
rencontre,
il
mais vraiment une humanité dans son dans sa pensée, quoi, qui est...
est. Ouais, il est très intéressant comme homme. Il a fait un podcast dans In Power avec Louise Aubéry. Cet épisode, il est super passionnant. Donc oui, comme tu parlais de philo, voilà, je trouve que c'est une approche intéressante de la philo parce que c'est assez vulgarisé. C'est écrit de manière très simple et comme tu le dis, c'est très très humain. Ça nous
Et
replace
sans
vraiment.
prétention, sans
Exact.
prétention.
Et là, c'est une philosophe qui s'appelle Marie Robert. Et c'est des petits bouquins un peu, comment je pourrais dire, qui mettent de bonne humeur en fait, parce qu'elle prend des exemples de la vie quotidienne, mais des exemples vraiment très banals. Ça peut être par exemple, tu vas chez Ikea et tu vas juste pour chercher une commode, et puis tu passes ta journée dedans parce que tu es pris dans le labyrinthe et machin, et voilà. Et en fait, à chaque fois, dans les situations de la vie quotidienne, elle te donne une piste par rapport à un grand philosophe et comment lui, il aurait réagi. Donc ça peut être une bonne entrée quand on ne connaît pas du tout la philo pour se familiariser avec des grands concepts de manière ultra simple et surtout ultra pratique. Voilà, ça aide à avoir du recul sur son quotidien, quoi.
Donc Marie Robert et le titre c'est.
Alors celui-là, c'est Quand tu ne sais plus quoi faire. Et l'autre, c'est Descartes pour les jours de pluie ou un truc comme ça.
D'accord, Descartes pour les jours de pluie.
Ouais, ou Descartes pour les jours de je sais plus quoi.
Ah, c'est ça, je dépense, donc je suis René Descartes bleu, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
On fait des blagues. Marie Robert, quand tu ne sais plus quoi faire. Voilà. Une
Donc, du
approche légère de la philosophie, alors.
ouais, c'est ça. Et en même temps, bah, ça donne des idées, ça donne d'autres pistes de lecture parce qu'en fait, à chaque fois, elle te présente un grand philosophe ou une grande philosophe et elle te donne deux, trois ouvrages à lire sur cette thématique-là. Donc, c'est ouais, une belle entrée dans la philo quand on ne connaît pas.
Ah, d'aborder la philo sur le tard en dehors du système scolaire, c'est à la fois très intéressant, mais à la fois t'as l'avantage et l'inconvénient de la désorientation, quoi. T'as l'avantage d'aborder les textes avec un regard puéril, totalement ignorant, donc ouvert, et puis t'as le désavantage de rien comprendre parce que t'as pas le contexte, t'as pas les commentaires, t'as pas les éléments biographiques, mais ça touche des choses intime, intéressante, hein, de Souvent, on a l'impression que c'est vaseux, un peu fumeux, abstrait, et en fait, je pense que c'est fondamental même dans la construction, le développement d'une pratique thérapeutique. Je pense que c'est fondamental.
Oui, parce que ça touche les grandes questions, en fait. Parce que c'est les grandes questions, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Ça va être qu'est-ce que la mort? C'est vraiment des choses essentielles, en fait.
Et souvent, les questions qu'on se pose ou les réflexions qu'on a ont déjà été faites.
Ce que tu disais tout à l'heure, ouais.
Ouais,
Ne pas avoir à tout
c'est.
réinventer.
Bah ouais. Ouais, puis je pense que ça nous inscrit bah ouais, dans l'humanité, de se dire ces choses-là sont débattues, réfléchies depuis toujours. Donc, ça, je sais pas si ça nous fait grandir ou rétrécir au niveau de l'ego, mais. Ouais. Alors, philosophie, donc, je ne sais plus, les catégories, de toute façon, elles sont poreuses, hein. Franz Kafka, Le procès, ça c'est la métaphore de je ne sais pas trop quoi, mais voilà. J'en dis pas plus, c'est étrange, c'est malaisant, c'est énigmatique,
C'est
c'est
kafkaïen.
oppressant, c'est kafkaïen. Voilà, ça tourne en rond. Voilà, t'es accusé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si t'étais innocent, tu poserais pas la question.
J'ai
Voilà.
pas lu celui-là, mais ouais, du coup, ça me donne envie.
Ah c'est puis c'est un voyage dans le Prague ancien, tu vois. Ouais. Ah il y en aurait tellement d'autres à proposer. Allez, moi je propose le dernier pour moi, puis après je te rends la parole. Ça
Ça
marche.
marche.
L'esthétisation du monde. Gilles Lipovetsky, Jean Serrois. Je lis le résumé parce que je serais bien incapable
Ça
de décrire
marche.
la teneur. Le style, la beauté, la mobilisation des goûts et des sensibilités s'imposent chaque jour davantage comme des impératifs stratégiques des marques. En gros, ça parle de la consommation, du design, du show business. Des produits chargés de séduction sont créés en masse. Ils véhiculent des affects, ils agencent un univers esthétique proliférant et hétérogène. Voilà, l'art du le look, l'affect, l'univers consumériste. Voilà.
Super.
Ces questions-là m'intéressent beaucoup parce que, comme beaucoup d'hypnothérapeutes, je ne veux pas devenir un produit de consommation. Je ne veux pas devenir un rouage du système de la production, de la consommation, du super entrepreneur, de toutes ces choses-là, quoi. Voilà.
Ouais. Et tu vois, concrètement, ça me fait penser à si tu as des clients qui viennent te voir pour correspondre à un idéal esthétique. Toi, je pense par exemple à des problématiques de troubles alimentaires, et comme ça je fais le lien avec la pile suivante.
Exactement. Oui, parce qu'au bout du bout, il s'agit de séduire, hein.
Voilà. Du coup, est-ce que tu vas, tu vois, travailler sur le soi-disant surpoids quand il n'y en a pas forcément, ou est-ce que tu vas travailler sur l'image de soi? Ça peut être intéressant dans ce cadre-là.
Et qu'est-ce qu'on a alors dans ton panier pour les troubles alimentaires?
Alors là, on va partir sur du. C'est un roman et un manga. Donc, c'est pas. Enfin, est-ce que c'est un roman? Non, c'est une autobiographie plutôt. Hunger de Roxane Gay.
Hunger, ok.
Donc, Roxane Gay qui est. Je crois que c'est une artiste. Je sais plus ce qu'elle fait. Je l'ai lu il y a un petit moment. Mais elle parle en fait de son surpoids. C'est une personne qui est
D'accord.
en obésité morbide et elle raconte sa vie en fait. C'est très très poignant comme récit. C'est vraiment, faut être bien dans sa tête, je pense, pour le lire parce que ça remue. Elle explique ben, d'où a commencé sa prise de poids. Donc, ben, comme bien souvent, c'est suite à un abus sexuel. Elle le décrit très précisément, donc c'est assez violent. Faut vraiment être comme je disais tout à l'heure, dans de bonnes dispositions pour pouvoir le lire. Et puis après, ben, elle parle de plein de choses qui sont liées à son surpoids, comment elle, dans sa vie, ça a eu un impact. Notamment, elle parle de la grossophobie, dans la société, que ce soit dans les hôpitaux, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, comment les structures ne sont pas adaptées à des personnes en surpoids. Elle donne l'exemple de quand elle prend l'avion, ben, elle est obligée de réserver deux sièges, par exemple. Des choses comme ça. Donc, c'est très, très concret. très factuelle et en même temps elle se livre hein, parce qu'elle parle vraiment de sa vie à elle. Donc un très très bel ouvrage. Voilà, si on connaît pas, si on connaît pas les problématiques de grossophobie ou d'obésité, etc., ça peut être intéressant de le lire. Mais je le redis, attention à être bien dans
Ouais,
ses baskets.
c'est un contenu bouleversant.
Ouais,
Ouais, il y a des
bouleversant.
scènes de, ouais, une description d'un viol. C'est,
Ouais.
voilà. Attention, attention.
Ouais.
La lecture peut être extrêmement perturbante, quoi.
Voilà, ça fait avancer, ça ouvre la manière de voir les choses, mais c'est un peu trash, quoi. Voilà. Et puis,
D'accord.
toujours dans un esprit assez cru. Donc là, je ne le montre pas en entier parce que c'est une image un peu. Je ne sais pas si ça va passer sur les réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle In the
Ok.
Clothes Named Fat. Je ne sais pas si c'est traduit en. Ouais, si, il est en français, celui-là. Ça parle là de troubles alimentaires de anorexie. Et ça décrit le parcours d'une femme dans la société japonaise qui s'impose des contraintes alimentaires. Voilà. Et en fait, au fil du bouquin, on voit son corps de plus en plus maigre, de plus en plus affaibli. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. Comment dire? C'est pas une approche ni clinique, ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste une tranche de vie. Donc on se le prend de plein fouet. Les dessins sont très beaux, mais très incisifs. Donc pareil à lire quand on est dans de bonnes dispositions morales, mentales. Mais c'est un livre qui fait réfléchir.
Est-ce que tu peux nous redonner le titre en anglais et en français, s'il te plaît?
In the clothes named fat. Ça se traduirait par dans les vêtements appelés graisse. Voilà. Et l'autrice, c'est Moyoko Anno.
Moyoko Anno. Déjà, le sujet de l'anorexie. Alors, le traiter en roman graphique, je pense, là j'ai envie de me, ouais, j'ai
Ouais.
envie de plonger dedans là.
Ouais, c'est vraiment un bel ouvrage, mais ça tape.
Sûrement, ouais. Ouais, quand tu, enfin, alors dans la société japonaise, j'imagine que ça doit être tellement pire que chez nous parce qu'il y a une société extrêmement extrêmement normative, mais le regard de la société sur les problèmes alimentaires, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant, dévalorisant, culpabilisant, tout ce qu'on veut, hein. Que ce soit la boulimie, l'anorexie, qui vont souvent ensemble d'ailleurs. Ouais.
Oui.
On parle de psychophobie, quoi, en fait.
Oui. Du coup, ça a plombé l'ambiance.
Non, 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 mais c'est des sujets importants, donc
Ouais.
bon, on fait des pauses aussi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cet échange, Valérie?
Lisez.
Lisez, ouais. Mais lire quoi? Pourquoi? Comment? Voilà. Lisez, ouais.
C'est une bonne question. Comment tu choisis tes livres, toi?
Comment je choisis mes livres? Alors en ce moment, c'est beaucoup par affinité avec des gens que j'entends parler avant de les lire,
Ok.
comme Barbara Stiegler par exemple, ou François Bégodeau que j'ai découvert récemment. Et tiens, j'avais une citation à faire de lui, mais par rapport à un podcast. Et donc, il y a déjà une habitude prise de comment, enfin, du discours, un peu de la pensée de l'auteur grâce à ses conférences, ses
Ok.
podcasts qu'on trouve partout. Donc, c'est une manière de choisir. Et
Ouais.
puis, souvent, bah, ces gens-là vont donner des références qui vont m'emmener vers d'autres choses dans les biographies. Et puis, souvent au hasard aussi. Souvent au
Ouais.
hasard. Puisque j'achète aussi quand même des livres en papier, mais là, c'est d'achat un peu impulsif, compulsif. Le titre, je sais pas, par exemple, La Société du Spectacle, j'en ai entendu dans un podcast qui était nul, mais le titre m'a parlé.
Ok.
Je pense qu'il faut être curieux, il faut être curieux, quoi.
Ouais.
Et puis, je pense que par défaut, je vais où tout le monde ne va pas. toute façon.
Ouais, moi je
Voilà.
fais un peu ça aussi.
Dès qu'il y a un bouquin, et particulièrement les bouquins d'hypnose, qui commencent à être un petit peu trop, consensuels, en général, je prends la direction opposée, quoi.
Ok.
Ce qui est un biais, ce qui est complètement un biais, cognitif, hein, de faire ça. Et toi, Valérie, comment tu t'orientes dans la lecture? Comment tu choisis? D'après quoi? Comment?
Ça ressemble à ta manière de fonctionner. Ça va être beaucoup, voilà, quand j'entends quelqu'un qui m'intéresse. Et puis, bah, des fois, ma curiosité, il y a une thématique va m'interpeller et puis je vais aller voir ce qui existe sur le sujet. Les recommandations aussi,
Ouais.
ça peut être des amis, des collègues. Ça fait déjà un petit pré-tri, quoi. Voilà.
Effectivement. Il y a les recommandations Amazon aussi qui marchent très bien. Quand tu as choisi un auteur, tu as des associations qui sont bien foutues, hein, par l'intelligence artificielle.
Bon, moi, j'ai tendance à boycotter Amazon, donc.
Ouais, bah oui, mais je devrais en plus. Mais moi, je vends des trucs sur Amazon. C'est la honte, quoi.
Bah, moi aussi, j'ai
Mais
pas eu le
bon.
choix, en fait. Mais donc,
Bah
voilà.
oui. Mais j'aime bien en même temps, j'aime bien. Super bien Amazon.
Bah, malheureusement, il y a des choses qu'on ne trouve que sur Amazon, et c'est là où c'est problématique.
Et si c'est pas sur Amazon, c'est que ça n'existe pas, tu vois. Voilà. Comme quoi, voilà, on est formaté là sur Amazon. Formaté. Jusqu'à prendre la défense du truc. C'est fou, hein. Valérie, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça.
Oui.
De lire, bah, d'être curieux, d'élargir ses horizons, de sourire aux recommandations et puis de ne pas rester sur des lectures techniques, consensuelles.
Oui, puis je pense que c'est bien aussi de garder des lectures plaisir en fait, des
Oui,
romans, des
ouais.
choses comme ça, de ne pas être que dans les lectures, comme tu dis, techniques ou qui sont pour, comment dire, pour élargir sa pratique, mais aussi détendre des fois son esprit.
Ouais. De travailler sur la construction de sa personnalité aussi.
Ouais. Sur l'imaginaire, sur la créativité.
La sensibilité, ces choses-là
Ouais.
sont certainement beaucoup plus importantes que la technique, que l'approche,
Ouais.
ou aussi importantes, en tout cas importantes.
Et puis, bah, comme il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes, si vous voulez mettre en dessous des commentaires avec des idées de lecture et tout, ça serait chouette.
Ce sera avec plaisir, ouais, et puis peut-être qu'on réorganisera ça une autre fois, peut-être pas. En tout cas, merci pour tes partages, Valérie, merci beaucoup.
Merci à toi. J'ai encore allongé
Ah...
ma liste de d'envie de lecture.
Ouais, bah ouais. Bah là, voilà, on est mal, là. On est mal. Mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. À bientôt, les gens, merci. Bonne
Bye.
journée. Bye bye.